L'air de la vérité, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Collectez-vous toujours très nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. Et surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen.
Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous.
C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, ravis de nous retrouver sur les ondes. Vous êtes bel et bien à l'écoute de l'heure de la vérité. Et nous bénissons vraiment le Très-Haut pour ce merveilleux privilège qui nous accorde une fois de plus, non seulement d'être comptés parmi les vivants, mais surtout de passer un peu de notre temps dans sa sainte parole. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Oui, Seigneur Jésus, nous te sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous jour après jour jusqu'à cette heure-ci et particulièrement pour ce moment. Seigneur Jésus, prends le contrôle de tout ce qui va se passer du début jusqu'à la fin parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Et surtout que ton esprit, l'esprit de vérité, puisse prendre vraiment le total contrôle afin qu'il n'y ait point ni de mauvaises compréhensions ni de mauvaises interprétations. Que Seigneur, tout esprit qui se lève contre la connaissance de Christ soit renversé au nom puissant du Seigneur Jésus. Oui, que tout auteur qui se lèvera d'une manière ou de l'autre contre la connaissance de la vérité, que cet auteur soit renversé au nom puissant du Seigneur Jésus. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, oui, vous êtes bel et bien à l'écoute de l'air de la vérité. Rassurez-vous, vous avez vraiment très très bien fait d'être à l'écoute, surtout à partir de ce moment même. Et pour vous servir, je suis, je reste, je demeure toujours votre très humble serviteur, pasteur Rodrigue Genji. Et bien entendu, cette émission se déroule sous l'œil très 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 attentif de son Excellence, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Et comme promis, nous allons continuer à nous intéresser à toutes ces doctrines qui sont pratiquées et enseignées et qui n'ont pas vraiment de fondement biblique, parce que cette émission, l'aide de la vérité, consiste beaucoup plus à attirer notre attention et notre regard sur certains enseignements et sur certaines doctrines qui n'ont pas de fondement biblique. Parce que je le crois de tout mon cœur, Les hommes, avec leurs doctrines, leurs philosophies et leurs sagesses, ne peuvent point nous sauver ni nous délivrer. Il n'y a que la parole de Dieu, la vérité biblique, qui est capable de nous sauver et surtout de nous affranchir. Et, très chers auditeurs, très chers auditrices, on peut vous tromper dans les affaires. On peut vous tromper dans beaucoup de choses, mais ne permettez pas qu'on vous trompe à propos de votre salut. Ne permettez pas qu'on vous trompe avec la parole de Dieu. Parce que c'est l'éternité qui est en jeu. Et imaginez que vous croyez sur la vérité. Imaginez que vous croyez servir Dieu durant votre séjour sur cette terre et qu'après votre mort, le Seigneur Jésus-Christ vous dise « Retirez-vous loin de moi, je ne vous ai jamais connu. » Alors, quelle tristesse et quel regret. C'est pour cette raison que le Seigneur a permis que nous puissions prendre un peu de notre temps pour examiner pas à pas certains enseignements et certaines doctrines pour nous rassurer que ces choses que nous pratiquons sont vraiment conformes à la parole de Dieu. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font sa volonté. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, pratiquez ma parole. Nous allons continuer de parler des serviteurs de Dieu. Pour ceux qui étaient à l'écoute la semaine passée, nous avons eu à partager sur les serviteurs de Dieu. Beaucoup de choses ont été dites. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer à nous intéresser toujours aux serviteurs de Dieu. Déjà par rapport aux serviteurs de Dieu, je disais déjà, bien entendu à la lumière des Saintes Écritures, que la théologie ne vient pas de Dieu, ne vient pas de la Bible, beaucoup ne le savent pas. Oui, je disais déjà que le mot théologie est issu du grec théologia et signifie littéralement discourir sur la divinité ou le divin. Il s'agit donc de l'étude rationnelle des réalités relatives au divin. Oui, la théologie, contrairement à ce que l'on pourrait penser, remonte à l'Antiquité et n'est donc pas née dans l'Église. Le premier à faire mention de cette science est le philosophe grec Platon, dans son livre intitulé « La République ». Oui, la science qui étudie Dieu. Et je disais déjà, pour ceux qui étaient à l'écoute, que on ne peut pas étudier Dieu. Dieu se révèle. Oui, on ne peut pas étudier Dieu. Il est tellement grand, tellement infini, que s'il ne se révèle pas, l'homme ne peut pas du tout le connaître malgré ses études, malgré ses diplômes, malgré ses efforts. C'est pour cette raison que nous avons besoin que de la révélation de Dieu pour le connaître. Dans l'Église primitive, les premiers chrétiens étaient formés par le ministère de la parole, que nous avons lu la dernière fois dans Éphésiens chapitre 4. J'y reviendrai tout à l'heure. Et à cette époque, il était impensable de les envoyer se former dans une école théologique, car les enseignants par excellence étaient le Saint-Esprit. Oui, très chers auditeurs, très chères auditrices, nous allons continuer à nous pencher vraiment sur ce sujet qui concerne les serviteurs de Dieu. Par exemple, dans Jérémie, chapitre 1er, qu'est-ce que nous pouvons lire à partir du verset 4 au verset 10? Je voudrais déjà, avant de lire dans Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 4 au verset 10, dire qu'il y a deux catégories de serviteurs de Dieu. Oui, il y a deux catégories de serviteurs de Dieu sur la terre. Il y a les serviteurs de Dieu par vocation et il y a les serviteurs de Dieu par formation. Oui, beaucoup sont devenus des serviteurs de Dieu parce qu'ils sont partis dans une école théologique et après avoir obtenu un diplôme, on les a donné un titre religieux et on les a engagés à servir dans un système religieux et pour certains, ils sont même payés comme des fonctionnaires. Oui, ça c'est une catégorie de serviteurs de Dieu. Et il y a une autre catégorie, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu par vocation. Parce que c'est Dieu qui les a appelés et a fait de ses serviteurs. Et c'est deux chemins diamétralement opposés. C'est le jour et la nuit. Ceux qui sont serviteurs de Dieu par vocation, on ne peut pas du tout les comparer à ceux qui sont serviteurs de Dieu par formation. Et les vrais serviteurs de Dieu sont directement appelés de Dieu. Et ils n'ont pas besoin des diplômes des hommes pour servir Dieu. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, par exemple, pour le servir comme apôtre, comme prophète, comme pasteur, à un moment donné, les hommes vont tout simplement découvrir le ministère public de cette personne lorsqu'il va commencer à travailler pour le Seigneur. Les hommes vont se rendre compte, comme on a l'habitude de dire, que l'on reconnaît un maçon au pied du mur et que l'on reconnaît un arbre par son fruit. C'est ce qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est par son fruit que l'on reconnaîtra que cette personne est vraiment appelée de Dieu. Cette personne est vraiment un serviteur de Dieu. Pas parce qu'il a fait une formation théologique, pas parce qu'il a eu un diplôme, pas parce qu'il sert dans un système religieux très très reconnu. Et nous allons lire dans Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 4, où il est écrit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Verset 6, je répondis: ah Seigneur Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 9, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, et pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Nous voyons ici l'appel du prophète Jérémie. Dieu a dit qu'avant que tu ne sois même formé, avant que tu ne naisses, je t'avais choisi, je t'avais consacré, je t'avais établi. Nous voyons que c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit et c'est Dieu qui consacre. Donc la consécration selon la parole de Dieu n'a rien à voir avec tous ces folklores et toutes ces cérémonies que les hommes organisent en pensant que c'est par là que quelqu'un va vraiment être considéré comme un vrai serviteur de Dieu. Nous allons y revenir en détail. Et je vous invite, très chers auditeurs, très chères auditrices, à rester tout simplement à l'écoute, surtout en ayant un stylo et pourquoi pas un cahier ou une feuille pour noter tous les versets afin de prendre le temps de les vérifier par la suite. Parce que mon désir, je le redis encore, c'est que votre foi soit fondée uniquement sur la parole de Dieu et non sur la sagesse des hommes.
Jour de beau temps,
Vous écoutez l'heure de la vérité. Nous sommes en train de parler des serviteurs de Dieu. Et je disais que la théologie ne vient pas de la Bible. Et pour rafraîchir, fois de plus, votre mémoire pour ceux qui étaient là et pour ceux qui n'étaient pas là. Déjà la dernière fois, je disais que il y a eu 4 étapes dans l'éducation théologique au cours de l'histoire de l'Église. L'épiscopale, la monastique, la scolastique et enfin la pastorale. Et l'étape épiscopale débuta avec le père de l'Église à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ. Il fut marqué par la formation des évêques et des prêtres dans les écoles du même nom. Ils recevaient un enseignement dogmatique sur les divers rituels et les différentes liturgies que l'Église devait exécuter. Et ensuite, l'étape monastique chrétienne qui commença entre le 3e et le 4e siècle après Jésus-Christ. Elle était caractérisée par un mode de vie aseptique et mystique, des moines ayant fait vœu de célibat, de pauvreté et d'obéissance aux clergés monastiques vivaient reclus dans des monastères. Et dès le 3e siècle, des écoles monastiques furent créées pour y former des missionnaires. Également, la scolastique, qui doit beaucoup à la culture de l'université, vers 1200 après Jésus-Christ, un certain nombre d'écoles cathédrales furent transformées en université. Et l'université de Bologne, en Italie, fut la première à voir le jour, suivie de celle de Paris et d'Oxford. Et cette étape de l'éducation théologique se traduit par la dispensation des enseignements théologiques par des professeurs d'université. Et l'étape pastorale, également appelée la théologie des séminaires, qui s'est développée à partir de la théologie scolastique enseignée dans les universités, consacrée à la formation des ministres professionnels en quelque sorte, et qui avait pour objectif de produire des spécialistes religieux qualifiés. Donc la théologie des séminaires ou l'école pastorale existe encore de nos jours. Ça, c'était pour faire un peu de l'histoire avec vous, pour vous montrer comment les hommes ont introduit la théologie dans la chrétienté, parce que ça ne vient pas de la Bible. Nous allons lire dans Amos chapitre 7, le prophète Amos chapitre 7, à partir du verset 10 au verset 15. Nous pouvons lire ceci, vous pouvez relever, après vérifier par la suite. Alors, Amazia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera amené captif loin de son pays. Et Abadzia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. Verset 14, Amos répondit à Amazia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel, verset 15, l'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Nous voyons aussi un prophète Amos, il n'était pas fils de prophète, c'était un cultivateur et un berger. Mais un jour, Dieu l'a choisi et a fait de lui un prophète. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'un jour, un prêtre de Bethel est venu lui dire, ne parle plus au nom de l'Éternel, ne prophétise plus. Parce que Amos disait les choses vraies, qui n'étaient pas des choses que les prêtres aimaient, de son époque aimaient, que les faux prophètes de son époque aimaient. Il disait la vérité. Et beaucoup n'aimaient pas cette vérité. Et ce prêtre, Amazia, lui a dit, va-t'en, ne prophétise plus, ne parle plus au nom de l'Éternel ici. Il lui répond, moi, je ne suis même pas fils de prophète. Moi, je suis un cultivateur, un berger. C'est l'Éternel lui-même qui m'a pris derrière mes bêtes, mon troupeau, et a dit, va et prophétise, deviens prophète. Oui, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui appelle ses serviteurs, c'est Dieu lui-même qui choisit ses serviteurs, qui les appelle, qui fait d'eux des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres. Cela ne vient pas des hommes, ni d'une école théologique quelconque. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 7, à partir du verset 14 au verset 16, qu'est-ce que nous pouvons lire? L'évangile de Jean, chapitre 7, à partir du verset 14. Il est écrit, « Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. » Verset 15, les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Verset 16, « Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Nous voyons que même Jésus lui-même, à un moment donné, lorsqu'il enseignait, les gens étaient étonnés et disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié, comme les pharisiens, comme les scribes, comme les théologiens de son époque. Jésus n'avait pas fait ses écoles. Et les gens étaient surpris de le voir enseigner les choses que même les théologiens, les scribes n'enseignaient pas. Et lui, il a dit que sa doctrine ne vient pas des hommes, mais de celui qui l'a envoyé. Donc, quand Dieu appelle quelqu'un, cette personne ne peut que enseigner ce que Dieu lui-même lui a révélé dans sa sainte parole. Mais malheureusement, beaucoup qui sont sortis des écoles théologiques ne peuvent que enseigner les dogmes de leurs mouvements religieux. Parce que c'est ce qu'on les a enseigné dans les écoles théologiques. C'est pour cette raison que parfois, vous pouvez voir les enseignements qui contredisent ce que dit réellement la parole de Dieu. Parce que les hommes parfois enseignent que les dogmes de leur religion que d'enseigner la vérité biblique. Très chers auditeurs, très chers auditrices, nous allons rester dans les évangiles, cette fois-ci dans Luc chapitre 20, à partir du premier verset, nous pouvons lire ceci. L'évangile de Luc chapitre 20, à partir du premier verset, au verset 8, il est écrit. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens suivirent et lui dit, dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Il leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême des Jean venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors il répondit qu'il ne savait d'où il venait. Et il leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Nous voyons, les gens ont interpellé Jésus, les sacrificateurs, les scribes, les anciens, c'est-à-dire les spécialistes de la religion, ont demandé à Jésus, mais qui t'a donné le pouvoir de faire ce que tu fais? Où est ton diplôme? Tu es sorti de quelle école théologique? Qui t'a donné ce pouvoir, cette autorité? Et Jésus les pose tout simplement une petite question. Jean-Baptiste qui est venu avant moi, qui est venu pour préparer mon chemin? De qui détenait-il son autorité? Qui lui avait donné l'autorisation ou les diplômes ou la permission pour faire ce qu'il faisait? Puisque ces gens étaient des hypocrites, ils savaient bel et bien que Jean-Baptiste était un prophète et qu'il avait reçu son autorité directement du ciel de Dieu. Mais puisqu'ils ne voulaient pas dire la vérité, ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas. Voilà les gens qui étaient censés parler la vérité. Les gens qui se disaient être des serviteurs de Dieu, mais qui mentent en plein jour. C'est le cas de beaucoup de personnes qui se disent serviteurs de Dieu, qui mentent vraiment de façon grossière, qui enseignent les choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et pourtant, ils se disent être serviteurs de Dieu. Lorsque nous voyons ces choses, moi particulièrement, je ne peux pas rester indifférent. En fait, c'était pour vous dire que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Jésus, eux, ils détenaient leur autorité directement de Dieu. Et tous ceux qui sont appelés de Dieu, par Dieu, pour le servir comme pasteur, apôtre, prophète et autres, détiennent leur autorité directement de Dieu. ils ne détiennent pas l'autorité d'un système religieux, d'un mouvement religieux, encore moins d'une école théologique. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chers auditrices, vous écoutez l'heure de la vérité. Je vous encourage à rester une fois de plus tout simplement à l'écoute. Vous écoutez l'heure de la vérité et nous sommes en train de parler des serviteurs de Dieu. Et je tiens à rappeler que vous pouvez visiter et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Et aussi, mes différents messages existent sur des différents supports, que ce soit sur des brochures, sur des CD audio, sur des VCD et même des DVD, et tout cela est distribué gratuitement. Si vous en avez besoin, contactez-moi tout simplement. Dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7, nous pouvons lire ceci, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Jésus-Christ, bien entendu. Et verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes dans les ruses, dans les moyens de séduction. Oui, la Bible nous dit que Dieu a donné des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des docteurs pour le perfectionnement des saints. Donc, c'est Dieu lui-même qui choisit certaines personnes. Et il fait d'eux des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes pour le perfectionnement des saints. Et je disais déjà la dernière fois qu'il y a une très grande différence entre celui-là qui a été appelé par Dieu et qui travaille pour Dieu et qui travaille pour le peuple de Dieu et l'édification du corps de Christ. Alors que ceux qui sont partis se former dans une école théologique, en général, lorsqu'ils sortent de ces écoles théologiques, ils travaillent pour le compte de leur système religieux, ce qui n'est pas normal. Parce qu'un serviteur de Dieu qui est vraiment appelé de Dieu travaille pour le corps de Christ et pour le peuple de Dieu. Oui, beaucoup ont toujours l'habitude de me dire, mais quelle est ta religion? Et moi, je leur réponds, moi je travaille pour le peuple de Dieu, je travaille pour le corps de Christ. Je ne travaille pas pour le compte d'une religion. Parce que ce n'est pas une religion qui m'a appelé, qui m'a établi. C'est Dieu qui m'a appelé et c'est Dieu qui m'a établi pour le servir et pour servir son peuple. En réalité, les choses devraient se passer ainsi. Malheureusement, les hommes s'étant détournés de Dieu font beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu avait prévu dès le départ, avec la vision de Dieu. Et je disais tantôt qu'il y a les serviteurs de Dieu par vocation et les serviteurs de Dieu par formation. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 4, qu'est-ce que nous pouvons lire? Actes des Apôtres, je vais aller tout doucement, parce que c'est important que vous reliez tous ces versets, après prendre le temps de les vérifier. Il est écrit, Barnabas est seul, envoyé par le Saint-Esprit, descendit à celui-ci, et de là, ils embarquaient pour l'île de Chypre. Oui, la Bible nous parle ici du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul, avec son compagnon. La Bible nous dit qu'ils avaient été envoyés par le Saint-Esprit. C'est pour dire que quoi? Que c'est Dieu lui-même et le Saint-Esprit qui coordonnent les mouvements des vrais serviteurs de Dieu. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous constatons? Les serviteurs de Dieu sont affectés comme des fonctionnaires. Parfois, on affecte certains serviteurs de Dieu sous forme disciplinaire. On les envoie dans des zones où ils ne veulent même pas y aller, juste pour les discipliner. En fait, c'était en passant. Mais dans le plan parfait de Dieu, un serviteur de Dieu doit aller là où le Seigneur l'envoie, pas là où les hommes l'envoient. Oui. Nous voyons, mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chers auditrices, qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut revoir et par la grâce de Dieu rectifier avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient chercher une église glorieuse, une église sans tâche. Et pour que cette église soit glorieuse et sans tâche, il faut que nous fassions les efforts de retourner à la parole de Dieu, de retourner à la vérité biblique. Si nous lisons, par exemple, dans Apocalypse chapitre 2, le verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse chapitre 2, le verset 2. Il est écrit: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Oui, la Bible nous dit qu'il y a certaines personnes qui se disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu alors qu'en réalité ils ne le sont pas. C'est pour cette raison qu'il revient aux hommes et aux enfants de Dieu d'éprouver ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Parce que parmi eux, il y a beaucoup qui ne sont pas des serviteurs de Dieu. Beaucoup sont venus dans la maison de Dieu juste parce qu'ils ont manqué du travail ailleurs. Et ils ont vu que la maison de Dieu, c'était là où il y avait une opportunité pour avoir de quoi manger. Et surtout, parce que les écoles théologiques sont là pour produire les spécialistes religieux. N'importe qui peut se lever, même un bandit, et aller là-bas se former et ressortir avec un diplôme. Pas étonnant de voir que dans beaucoup d'églises, beaucoup de systèmes religieux, qu'on y retrouve des gens qui sont même des docteurs, mais qui sont des vrais escrocs, des vrais arnaqueurs. Et pourtant, ils ont des diplômes théologiques, parce qu'ils n'ont jamais été appelés par Dieu. Mais, malheureusement, au travers des écoles théologiques et des diplômes, ils s'introduisent au milieu du peuple de Dieu, comme des loups qui se sont introduits dans la bergerie du Seigneur pour faire mal au troupeau du Seigneur. Si nous lisons, par exemple, dans l'évangile de Luc, chapitre 6, nous allons voir que là, Jésus lui-même va choisir ceux qui vont devenir plus tard les apôtres. Oui, l'évangile de Luc, chapitre 6, plus précisément à partir du verset 12, il est écrit: en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Nous voyons que c'est Jésus lui-même qui a choisi directement ses apôtres. Et nous pouvons remarquer que Jésus n'a pas organisé une cérémonie pompeuse lorsqu'il a décidé de choisir ses 12 pour devenir ses apôtres. Plus tard, il va choisir 70 et avant de monter dans les cieux, il va demander à tous les chrétiens d'aller, de faire de toutes les nations les disciples. Mais nous allons quand même voir que ici, Jésus n'a pas organisé une très grande fête lorsqu'il a choisi ses 12 apôtres. Et plus tard, dans Actes des Apôtres, lorsqu'il va falloir remplacer Judas, qui a trahi le Seigneur Jésus et qui s'est pendu, là non plus, nous n'allons pas voir une grande fête organisée par les apôtres pour choisir celui qui devait remplacer Judas. Les choses se passaient simplement. Et pourtant, ces personnes étaient vraiment des serviteurs de Dieu, étaient ou un pas Dieu, étaient efficaces sur le terrain, prêchaient la bonne nouvelle, il y avait des miracles, des prodiges. Oui, la puissance de Dieu reposait sur eux, sur leurs enseignements, et les choses étaient simples. Et nous voyons que, par rapport à ce que nous vivons de nos jours, c'est vraiment le jour et la nuit. Dans Actes 13, que nous avons lu tout à l'heure, le verset 4, si nous lisons par exemple, à partir du premier verset, des Actes des Apôtres, à partir du premier verset, il est écrit: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïn, qui avait été élevé avec Hérode, le tétraque et Saul. Verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3, alors après avoir jeûné et prié, ils imposaient les mains et les laissaient partir. Les choses se passaient très simplement. Nous voyons déjà que c'est Dieu lui-même qui dit, mettez-moi à part ces personnes. Et l'Église va obéir en mettant ces personnes à part, en priant pour eux, et les laisser partir aller servir Dieu. Et ils ne sont pas partis servir sous le compte de leur religion, bien aller travailler pour le compte d'un système religieux. Ils sont partis servir le Seigneur et servir le corps de Christ. Les choses en réalité devraient se passer ainsi. Mais tel n'est pas vraiment le cas. On n'a pas organisé une très grande fête. Les choses se passaient vraiment simplement. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire. Je crains que vos pensées ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Puis je crains que vos pensées ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et que vous ne vous corrompiez comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden en cédant à la séduction de Satan. Très chers auditeurs, je vous encourage une fois de plus à rester tout simplement à l'écoute. Vous écoutez l'heure de la vérité et nous sommes en train de parler des serviteurs de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 6, nous allons voir les premiers diacres qui vont entrer en fonction dans l'église primitive. Nous allons voir que les choses se passent également de façon simple. Les choses n'étaient pas compliquées. Il n'y avait pas de cérémonies pompeuses. Les premiers diacres qui vont être établis pour diriger collégialement l'église avec les anciens. Dans Matthieu chapitre 23, Matthieu chapitre 23, à partir du verset 8 au verset 9, Jésus va dire, mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, Rabbi, car un seul est votre maître. Et verset 9, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Nous voyons que de nos jours également, beaucoup se battent pour avoir des titres religieux qui n'ont même pas de fondement biblique ou bien qui sont formellement défendus par Dieu. Oui, Jésus a dit que beaucoup aiment des titres religieux. Je vais surprendre certainement beaucoup de personnes en leur disant que Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre Père. Donc, dans les choses de Dieu, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Père, c'est Dieu qui est dans les cieux. Mais dans le domaine naturel, ceux qui nous ont mis au monde, nous pouvons les appeler Papa, Père. Dans les choses de Dieu, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Père, c'est Dieu qui est dans les cieux. Mais dans le domaine naturel, ceux qui nous ont mis au monde, nous pouvons les appeler Papa, Père, il n'y a aucun problème. Mais dans le domaine des choses de Dieu, dans le domaine des choses spirituelles, la Bible nous dit, n'appelez personne sur la terre Père. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu défend aux hommes de s'approprier certains titres. Je vais également surprendre beaucoup d'auditeurs en les disant que même le titre révérend que l'on attribue aux hommes ne vient pas de la Bible. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne en réalité qui mérite la révérence, c'est Dieu lui-même. Je profite pour dire à ceux qui me connaissent de m'appeler tout simplement pasteur. Oui, ne m'appelez plus révérend pasteur. Je suis pasteur parce que c'est biblique, mais révérend pasteur n'est pas biblique. Oui, restons dans la parole de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Beaucoup sont en train de faire la concurrence des titres religieux. Il y a des gens, des généraux, des archibishops. En fait, les hommes croient que c'est au travers de ces titres qui vont se faire respecter ou bien qu'on va voir qu'ils servent vraiment Dieu. En fait, c'est la chair qui a pris le dessus sur l'esprit de Dieu. Jésus a dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. On n'est pas un serviteur de Dieu à cause de son titre religieux, mais on est un serviteur de Dieu à cause du service que l'on rend au peuple et que l'on rend aux hommes sur la terre. Et toujours dans Matthieu chapitre 23, au verset 5, Jésus va dire: ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filatères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Verset 6, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Et ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Nous voyons, le Seigneur Jésus-Christ était déjà en train de condamner ces choses à son époque. Il a dit qu'il y a certaines personnes qui aiment porter les vêtements spéciaux, que lorsqu'ils passent, que l'on, au travers de leurs vêtements, que l'on les distingue des autres. Jésus a condamné cela. Parce que ce n'est pas cela qui montre qu'on est vraiment un serviteur de Dieu. Et nous avons vu que progressivement, on a introduit ces choses dans la chrétienté. Au temps de Jésus, au temps des apôtres, ils étaient simples. Ils s'habillaient simplement comme tout le monde. C'est au travers de leur ministère qu'ils pouvaient se démarquer et se distinguer des autres. Ce n'était pas au travers de leur habillement spécial. D'ailleurs, lorsque nous lisons l'histoire qui relate l'arrestation de Jésus, dans Marc chapitre 14, qui relate l'arrestation du Seigneur Jésus, par exemple, à partir du verset 43, et aussitôt comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le sûrement. Nous voyons que Judas, avant de trahir Jésus, avait précisé ceci: celui à qui je donnerai un baiser. Cela sous-entend que Jésus ne s'habillait pas d'une façon différente des autres. Donc Jésus, au milieu de ses disciples, ne pouvait pas se distinguer au travers de son habillement. C'est pour cette raison qu'il a fallu que Judas aille jusqu'à lui donner un baiser pour que ceux qui venaient arrêter Jésus soient sûrs que c'est vraiment Jésus. Alors, nous voyons que ce que Jésus dénonce lui-même, il faisait tout pour ne pas faire ces choses. Il s'habillait simplement. Il ne se distinguait pas des autres au travers de son habillement. Et en réalité, si nous étudions encore l'histoire de l'Église, si un jour j'y reviendrai, nous allons voir qu'on a seulement introduit ces choses à l'Église, à savoir habiller certaines personnes d'une façon spéciale pour montrer qu'ils sont vraiment ceux-là qui sont les spécialistes de la religion différente du peuple. Ou bien, comme on le dit vulgairement, clergé laïque. Le mot clergé et laïque ne se trouve pas dans la Bible. Ce sont les hommes qui ont inventé ces deux mots pour séparer le peuple de Dieu en deux, et surtout au travers de leurs vêtements spéciaux. Et la Bible nous dit concernant Jean-Baptiste, c'est Jésus lui-même qui va dire dans Matthieu chapitre 11, voici ce que Jésus va dire concernant le prophète Jean-Baptiste. Il va dire ceci, à partir du verset 7, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Jésus a rendu témoignage de Jean-Baptiste. Il a dit que parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que lui. Et pourtant, il dit bien que les gens n'allaient pas dans le désert pour voir Jean-Baptiste parce qu'il s'habillait d'une façon spéciale. Bien au contraire, Jésus a dit que ceux qui s'habillent en habits précieux sont que dans des palais. Pourtant, les gens allaient vers Jean-Baptiste qui était habillé en peau, et qui se nourrissait des sauterelles de miel sauvage. Et pourtant, il était un puissant serviteur de Dieu. Et c'est pour cette raison que les gens pouvaient abandonner leur maison pour aller le voir dans le désert. Vous dites que ce n'est pas l'habillement qui montre que quelqu'un est vraiment un serviteur de Dieu. Oui, j'insiste, ce n'est pas par l'habillement qu'on reconnaît un vrai serviteur de Dieu. Malheureusement, beaucoup ont cru et continuent à croire qu'ils vont toujours se distinguer des autres que par les habillements spéciaux, les toges, les cols, ceci et autres. On en crée tous les jours pour se démarquer de plus en plus des autres. Et c'est tout simplement regrettable. Très chers auditeurs, très chères auditrices, vous écoutez l'aide de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange aussi, mais surtout la vérité qui libère et qui sauve. Restez tout simplement à l'écoute. Et vous écoutez l'air de la vérité. Vous connaissez la vérité. La vérité vous rendra libre. Dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 6, Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 6, il est écrit: et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Verset 7, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. La Bible nous dit que, en réalité, l'habillement des vrais serviteurs de Dieu, ce sont les œuvres justes. Oui, si quelqu'un est vraiment un vrai serviteur de Dieu, son habillement doit être les œuvres justes, le fruit qu'il doit produire. Donc, ce n'est pas forcément parce que quelqu'un s'est habillé d'une façon spéciale qu'il est serviteur de Dieu. Ce n'est pas forcément parce que quelqu'un s'est habillé d'une façon particulière que ce qu'il dit est approuvé par Dieu. Mais la Bible nous dit que le véritable habillement des saints, le fin lin, ce sont les œuvres justes. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Très chers auditeurs, très chères auditrices, mesdames et messieurs, nous sommes bientôt à la fin de notre émission de ce jour. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer prochainement. Déjà, la dernière fois, je disais que l'Église, telle que nous la voyons de nos jours, qui est dirigée par un pasteur, n'est pas publique. Je disais que l'Église, selon la Bible, était dirigée tout simplement par les anciens. Les pasteurs, au même titre que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, avaient plutôt un ministère itinérant. Et localement, une assemblée était dirigée par les anciens. Et nous allons parler des anciens. Oui, c'est personnes qui sont chargées de diriger les assemblées locales. Et nous allons également voir que ce qui est écrit dans la Bible et ce qui se pratique, c'est vraiment le jour et la nuit. Et si je tiens à creuser tous ces sujets, c'est parce que je sais que le Seigneur est en train de réformer son Église. Lui, nous sommes à la fin des temps. Et à tout moment, le Seigneur Jésus-Christ peut revenir chercher son Église. Cette Église qui n'est pas un système religieux, qui n'est pas une dénomination, cette Église qui est tout simplement l'ensemble de tous les vrais croyants habités par l'Esprit de Dieu sur la terre. Et le Seigneur veut que cette Église soit pure. Et pour que cette Église soit pure, il faut que chacun qui fait partie du corps de Christ fasse les efforts de se conformer à la parole de Dieu. Parce que le salut est d'abord personnel. Il n'y a aucun système religieux qui peut sauver. Il n'y a aucune religion qui peut sauver. C'est pour cette raison que lorsque vous entendez la parole de Dieu, il vous revient personnellement de prendre des décisions par rapport à ce que vous avez compris. Le Seigneur Jésus a dit, je reviens bientôt. Et il revient chercher une église sans tâche. Sans tâche. Imaginez une église sans tâche, irréprochable. Et lorsque nous voyons ce qui se pratique dans les systèmes religieux, l'église du Seigneur a tellement de tâches et de rides, de souillures, qui sont des pratiques qui ne viennent pas de Dieu, qui sont des fausses doctrines. Malheureusement, ces fausses doctrines et ces pratiques sont devenues des traditions, sont devenues des coutumes. Et comme on a l'habitude de dire, c'est devenu une seconde nature. Et l'homme a du mal à s'en défaire. Parce qu'on a grandi dedans. On a été habitué à cela. On a mangé, bu dedans. Et lorsqu'on comprend même la parole de Dieu qui dit autre chose, on a du mal à se défaire de ces choses. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Parce que Jésus revient chercher cette église qui va ressembler à la première église, l'église primitive. Ce qui caractérisait cette première église, c'était qu'elle était simple, elle marchait dans la soumission totale à la parole de Dieu, et cette église était remplie de la gloire et de la puissance de Dieu. Et pour votre information, l'église de Dieu est née avec 120 personnes. Et ce sont ces 120 personnes qui ont influencé le monde entier. Alors qu'ils n'avaient ni brochure, ni télévision, ni radio, ni avion, ni bateau pour se déplacer. Ils n'avaient rien de tout cela, ni internet. Et pourtant, la puissance de Dieu reposait sur eux. Parce qu'ils marchaient dans la parole de Dieu, parce qu'ils étaient soumis à la parole de Dieu. C'est pour dire que aujourd'hui, l'Église a perdu son autorité, sa puissance, parce qu'elle s'est compromise. Elle s'est retrouvée dans les pratiques mondaines, les pratiques philosophiques qui ne glorifient pas Dieu. Et a perdu sa notoriété et sa puissance. Parce que la Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. L'homme, avec sa sagesse, avec sa théologie, ne pourra jamais remplacer la parole de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. Et j'espère que par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver sur cette même antenne, à la même heure. Surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Et que les honneurs, la louange, l'élévation, l'adoration, les actions de grâce reviennent à son excellence, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, celui qui revient très bientôt, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre
de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros de 00237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.
Si le Seigneur Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Seigneur Jésus-Christ revient très 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 bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prête?